Première partie. Le prisonnier. Chapitre 1. La porte. 1. 3. C'est le chiffre de ton destin. 3. Oui, le 3 est mystique. Le 3 est au cœur de ta quête. Plus tard viendra un autre chiffre. Le chiffre d'aujourd'hui est le 3.
Quel 3 ?
On ne voit qu'une partie des choses, et ainsi s'obscurcit le miroir de la prophétie.
Dis-moi ce que tu peux.
Le premier est jeune, les cheveux noirs. Il se tient au bord du gouffre, le gouffre du vol et du meurtre. Un démon l'a envahi. Le nom de ce démon est Héroïne. Quel genre de démon ça peut être? Je ne le connais pas, même dans les leçons de mon tuteur. Il voulut parler, mais n'avait plus de voix. Et la voix de l'oracle, cette catin stellaire, cette pute des vents, s'était tue, elle aussi. Il vit tomber une carte voltigeant de nulle part à nulle part, tournant et retournant, paresseuse. Un babouin, souriant de toutes ses dents, se tenait sur l'épaule d'un jeune homme. Ce dernier levait la tête, les traits déformés par une représentation stylisée de l'effroi et de l'horreur. En y regardant de plus près, le pistolero remarqua que le babouin était armé d'un fouet. « Le prisonnier !» chuchota l'homme en noir, un homme en qui le pistolero avait jadis eu confiance et qui s'appelait alors Walter. « Un tantinet dérangeant ? Non ? Un tantinet dérangeant ? »
2.
Le pistolero s'éveilla en sursaut, interposant la protection dérisoire de sa main mutilée, sûr qu'un des monstrueux crustacés de la mer occidentale allait lui tomber dessus d'un instant à l'autre, le harcelait désespérément dans sa langue étrangère tout en lui arrachant la figure. Mais ce n'était qu'une mouette, attirée par le jeu du soleil matinal sur les boutons de sa chemise. Effrayée par son geste, elle vira sur l'aile dans un cri paniqué. Roland s'assit. Des élancements dans la main, atroces, sans fin. La même chose dans le pied droit. Deux doigts et un orteil hurlant avec insistance qu'ils étaient toujours là. Une moitié de chemise disparue et ce qui en restait ressemblant à une veste en loques. Il en avait arraché un morceau pour se bander la main, l'autre pour se bander le pied. « Allez-vous-en » dit-il aux absents, à ses deux doigts, à son orteil. « Vous n'êtes plus que des fantômes, allez-vous-en » Cela lui fit du bien, enfin, vaguement. C'étaient des fantômes, oui, mais des fantômes pleins de vitalité. Il mangea de la viande séchée. Sa bouche n'en voulait guère, son estomac encore moins. Il se força. Quand il l'aperçut à l'intérieur de son corps, il se sentit un peu plus solide. Oh, pas beaucoup, toutefois. Il était bien près du fond. Néanmoins, il fallait agir. Il se leva, chancelant, promena un regard autour de lui. Partout, des oiseaux tournoyaient et plongeaient, mais il semblait partager avec eux l'exclusive propriété du monde. Les monstres à pinces n'étaient plus en vue. Peut-être s'agissait-il d'une espèce nocturne ou portée par la marée. Pour l'heure, la distinction semblait sans importance. La mer était énorme, se perdant à l'horizon dans des brumes bleuâtres. Toute frontière entre elle et le ciel s'était effacée. Le pistolero la contempla pendant un long moment, oubliant de souffrir. Il n'avait jamais vu tant d'eau. Il en avait bien sûr entendu parler, enfant, dans des contes ou par ses maîtres. Certains, en tout cas, l'avaient formellement attesté. Mais voir ce spectacle pour de vrai, cette immensité, cet éblouissement liquide après tant d'années de terres arides, voilà qui était difficilement acceptable, difficile à supporter même. Il la regarda longtemps, extasié. Tout son corps n'était plus que regard, noyant momentanément sa douleur dans l'émerveillement. Mais c'était le matin, et il restait à faire. Il chercha la mâchoire dans sa poche arrière, prit soin d'en approcher la main par la paume afin d'éviter au moignon tout contact avec l'os s'il était toujours là. Les sanglots infinis de la chair à vif se transformèrent néanmoins en hurlements insoutenables. La mâchoire était là. Parfait. Ensuite, il déboucla non sans mal les ceinturons et les posa au soleil sur un rocher. Puis il prit les pistolets, en bascula les barillets, éjecta les balles inutiles. Un oiseau mit le cap sur la brillance de l'une d'elles, la ramassa. Puis il s'en désintéressa et reprit son essor. Les revolvers même réclamaient ses soins. Les auraient réclamés en priorité si, dans ce monde comme dans tout autre, une arme à feu sans munitions n'était devenue aussi efficace qu'une matraque ou une massue. Il reprit donc les ceinturons, se bornant d'abord à les étaler sur ses genoux, laissant courir sur le cuir les doigts de sa main gauche. Les ceinturons étaient trempés, depuis les boucles et les pattes de fixation jusqu'au point où ils se croisaient sur les hanches. À partir de là, le cuir était sec. Soigneusement, il extirpa les cartouches des alvéoles épargnées. Sa main droite exigeait de participer à l'ouvrage, oublieuse de son infirmité, malgré la douleur, et il se surprit à la ramener sans cesse sur son genou comme un chien trop stupide ou trop obstiné pour rester au pied. Il fut à plusieurs reprises à deux doigts de s'administrer une tape sur la main.
« Je pressens de sérieux ennuis, » songea-t-il une fois de plus.
De ces balles qu'il espérait encore bonnes, il fit un tas, tellement réduit que c'en était décourageant. 20, dont certaines feraient long feu, presque à coup sûr. Il ne pouvait compter sur aucune. Il ôta les autres et en fit un second tas. 37. Bon, tu n'avais pas de quoi soutenir un siège de toute manière, se dit-il, néanmoins sensible à l'énorme différence entre 57 balles fiables et combien ? 20, 10, 5, 1, 0 peut-être. Il avait toujours sa bourse. C'était déjà ça. Il la posa sur les genoux et lentement entreprit de démonter les pistolets pour procéder au rituel du nettoyage. 2 heures s'étaient écoulées quand il termina enfin son travail. La douleur avait cru en intensité au point que la tête lui tournait, que toute pensée consciente présentait des difficultés insurmontables. Il avait sommeil. De sa vie entière, jamais il n'avait autant désiré dormir. Mais dans l'accomplissement du devoir, on ne pouvait accepter aucun prétexte pour se désister.
« Corte !»
dit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas. Puis il eut un rire sec. Lentement, lentement, il remonta les revolvers, puis il les rechargea, puisant sur le tas de cartouches présumées sèches. Cela fait, il prit celui conçu pour sa main gauche, l'arma. Puis, progressivement, rabaissa le chien. Il voulait savoir, oui, savoir si presser la détente produirait une détonation satisfaisante ou seulement un nouveau clic inutile. Mais qu'aurait-il appris d'un clic ? Rien. Et d'une détonation ? Seulement que le nombre de ses balles s'était réduit de 20 à 19, ou de 5 à 4. Peut-être même venait-il de gaspiller la dernière. Il déchira un autre morceau de sa chemise, y plaça les munitions touchées par l'eau et noua les pans du tissu, utilisant à la fois ses dents et sa main gauche. Puis il rangea le paquet dans son sac. « Dors !» exigea son corps. « Dors ! Il le faut, maintenant, avant qu'il ne fasse noir. Tu as bout de force !» Il se releva et laissa remonter son regard sur la grève déserte. Elle avait la couleur d'un sous-vêtement trop longtemps tenu à l'écart de la lessive, et les coquilles qui la jonchaient se fondaient dans la grisaille. Çà et là, saillant d'un sable grossier mêlé de galets, de gros rochers couverts de guano, voyaient leurs anciennes couches d'un jaune de dents fossiles éclaboussées de blanc par les déjections les plus fraîches. Un cordon d'algues matérialisait la frontière des hautes eaux. Juste au-dessus de cette ligne, il vit des morceaux de sa botte droite et de ses deux outres. C'était presque un miracle, songea-t-il, que ces dernières n'aient pas été emportées par les plus fortes vagues. Il se dirigea vers elles comme s'il marchait sur des œufs, boitant de manière prononcée. Il ramassa l'une des sacoches et la secoua. Si l'autre était vide, celle-ci contenait à l'évidence encore un peu d'eau. Bien des gens n'auraient pas fait la différence, mais pour le pistolero, ces outres étaient depuis si longtemps ses compagnes de voyage qu'il n'aurait jamais pu les confondre, telle une mère incapable de confondre ses jumeaux. Il entendit le précieux liquide glouglouter à l'intérieur. Don miraculeux. La créature qui l'avait attaqué, ou l'une de ses congénères, aurait facilement pu déchirer l'une ou l'autre de ses outres d'un simple coup de pince ou de bec. Mais monstres et marées, instruments du destin, s'étaient montrés cléments. De la créature même, il ne restait trace, alors qu'elle avait trouvé la mort bien au-dessus de la limite des hautes eaux. Il se pouvait que d'autres prédateurs l'aient emporté, ou encore ses semblables pour des funérailles en mer, à l'instar des olibontes, ces géants du bestiaire légendaire dont Roland enfant avait entendu dire qu'ils enterraient leurs morts. Il souleva l'outre sur son coude gauche, but abondamment, et sentit quelque énergie revenir en lui. Sa botte droite était bien sûr dans un état lamentable, mais une étincelle d'espoir jaillit en lui quand il la regarda de plus près. La chaussure même était entière, labourée, marquée, mais entière, et il serait peut-être possible, en coupant l'autre, de les appareiller, d'en faire quelque chose qui durerait au moins quelque temps. L'évanouissement le gagna. Il lutta contre lui, mais ses genoux lâchèrent et il se retrouva assis par terre en train de se mordiller stupidement la langue. « Tu vas pas tomber dans les pommes » s'admonesta-t-il. « Pas ici, où un autre de ces monstres serait bien fichu de revenir cette nuit finir le boulot. » Il se releva, attacha l'outre vide autour de sa taille, et n'avait pas fait plus de 30 pas vers l'endroit où il avait laissé ses revolvers et sa bourse, quand il s'écroula de nouveau, à demi inconscient. Il resta étendu là un bon moment, une joue collée au sable, le bord d'un coquillage mordant sa chair, assez profond pour en tirer du sang. Puis il réussit à boire une gorgée d'eau et reprit sa progression en rampant. 20 mètres plus haut, sur la pente, il y avait un arbre de Josué, rabougri, mais susceptible d'offrir au moins un peu d'ombre. 20 mètres firent à Roland l'effet de 20 lieues. Toutefois, non sans mal, il finit par pousser les maigres vestiges de ses biens dans la flaque d'ombre et s'y renversa sur le dos, s'enfonçant déjà dans ce qui pouvait être le sommeil, un évanouissement ou la mort. Il interrogea le ciel, essayant de se faire une idée de l'heure. Pas encore midi, mais l'exiguïté de son havre de fraîcheur lui en montrait la proximité. Il résista encore un peu, le temps d'amener son bras droit à la hauteur de ses yeux, d'y chercher les rouges lignes témoins de l'infection, du poison qui filtrait lentement mais sûrement vers le centre de son corps. Sa paume était d'un rouge éteint. Mauvais signe. « Je me suis toujours branlé de la main gauche, » pensa-t-il. « C'est déjà ça. » Puis les ténèbres se refermèrent sur lui et il dormit pendant les 16 heures suivantes avec dans ses oreilles et dans ses rêves l'incessant fracas de la mer occidentale. 3. Quand le pistolero se réveilla, la mer était encore plongée dans l'ombre, mais une vague lueur montait dans le ciel à l'est. Le matin était en route. Il se redressa. Des vagues de vertige l'assaillirent et faillirent le renvoyer au sol. Il baissa la tête et attendit. Quand le malaise fut passé, il regarda sa main. Aucun doute, c'était infecté, rouge, enflé, prenant toute la paume et le poignet. Pas plus haut pour l'instant, mais il distinguait l'esquisse d'autres lignes qui finiraient par atteindre le cœur et par le tuer.
« Il me faut un médicament. Mais où en trouver ici ?»
N'était-il venu si loin que pour y mourir ? Jamais. Et s'il devait périr malgré sa détermination, ce serait au moins sur le chemin de la tour.
« Quel être d'exception tu fais, pistolero ? Comme tu es indomptable !» ricana la voix de l'homme en noir dans sa tête. « Romantique dans ta stupide obsession !»«
Va te faire foutre » croissa-t-il. Puis il but. Il ne restait pas grand-chose. Il avait toute une mer en face de lui, de l'eau partout, et pas une goutte à boire.
« Allez, passe à autre chose !»
Il boucla ses ceinturons, attacha les étuis à ses cuisses, manœuvre qui dura si longtemps que, quand il eut fini, les premières lueurs de l'aube éclairaient déjà le ciel de l'après-midi, et tenta alors de se mettre debout. Il lui fallut attendre d'y être arrivé pour avoir la conviction que c'était faisable. S'accrochant de la main gauche à l'arbre de Josué, il ramassa l'outre, pas tout à fait vide, la prit en bandoulière, puis répéta l'opération avec le sac. Quand il se redressa, une faiblesse le submergea une nouvelle fois. Il courba la tête et attendit, tendu, déterminé à vaincre. Le malaise passa. D'un pas zigzagant d'un homme au dernier stade de l'ivresse ambulatoire, le pistolero redescendit vers la plage. Il s'y planta face à l'océan couleur de vin de mur et sortit de sa bourse la dernière lanière de viande séchée qu'il mangea à moitié. Sa bouche et son estomac se montrèrent cette fois un peu moins difficiles. Puis le pistolero se retourna et commença de grignoter l'autre moitié en regardant le soleil se lever au-dessus des montagnes où Jake avait péri, comme s'il s'accrochait d'abord aux arêtes cruelles et dénudées des sommets, avant de s'élever enfin bien au-dessus des cimes. Roland offrit son visage à la caresse du soleil, ferma les yeux et sourit. Il termina sa viande et pensa
« Parfait, je n'ai plus rien à manger maintenant. J'ai deux doigts et un orteil de moins qu'à ma naissance. Je suis un pistolero dont les balles pourraient très bien refuser de partir. » Je suis malade parce que j'ai été mordu par un monstre et je ne dispose d'aucun remède. Avec un peu de chance, j'ai encore de l'eau pour un jour. Je suis peut-être capable de couvrir 4 ou 5 lieues, mais seulement si je bats le rappel de mes ultimes ressources. Bref, je suis un homme au bord de n'importe quoi.
Quelle direction prendre ? Il venait de l'est et ne pouvait poursuivre vers l'ouest sans les pouvoirs d'un saint ou d'un sauveur. Restaient le nord et le sud.
Le nord. Telle fut la réponse que lui dicta son cœur. Une réponse sans l'ombre d'une interrogation.
Le nord, donc. Le pistolero se mit en marche.
4. Il marcha 3 heures, tomba 2 fois. Et la seconde, il crut ne jamais devoir se relever. Puis une vague monta vers lui, assez près pour lui rappeler ses armes, et il fut debout d'un bond, sur des jambes qui vibraient, comme s'il chevauchait des échasses. Il se dit qu'il avait peut-être marché sur un peu plus d'une lieue durant ces 3 heures. Le soleil commençait à chauffer, mais pas assez pour expliquer le martèlement du sang dans son crâne ou la sueur qui lui ruisselait sur le visage, pas plus que la brise marine n'était assez forte pour justifier ses frissons qui le saisissaient de temps à autre, lui donnaient la chair de poule et le faisaient claquer des dents.
« La fièvre, pistolero !» ricana l'homme en noir.
« Ce qui restait de toi s'est embrasé. Le rouge faisceau de l'infection était à présent plus net, remontant du poignet jusqu'au renflement de l'avant-bras. Il couvrit un autre mille et vida sa deuxième outre, puis il l'attacha autour de sa taille avec l'autre. Le paysage était désagréablement monotone. La mer à sa droite, les montagnes à sa gauche, le sable gris jonché de coquilles sous la semelle de ses bottes rognées, et le va-et-vient des vagues. À l'affût d'éventuelles homarstruosités, il n'en vit aucune. Il sortait de nulle part, cheminait vers nulle part, venu d'un autre temps, ayant atteint, semblait-il, un terme inutile. Peu avant midi, nouvelle chute, et la certitude que c'était la dernière. Ici, donc, la fin, après tout. À quatre pattes, il redressa la tête, boxeur groggy. Et plus loin, peut-être à un mille, peut-être à trois, difficile d'évaluer les distances sur cette bande de sable au décor immuable, avec la fièvre qui le travaillait au corps et faisait jaillir les globes de ses yeux hors de leurs orbites, il vit quelque chose de vertical qui tranchait sur la grève. Quoi ? Trois. Aucune importance. C'est le chiffre de ton destin. Il réussit à se remettre debout, croassa quelque chose, plainte que dans leurs cercles incessants les oiseaux marins seuls purent entendre, et le plaisir qu'ils auraient à m'arracher les yeux de la tête, songea-t-il, l'aubaine, un tel morceau de choix. Puis reprit sa marche dans des zigzags de plus en plus prononcés, dessinant derrière lui boucles et méandres. Son regard restait rivé sur cette chose verticale droit devant. Quand ses cheveux lui tombaient dans les yeux, il les rejetait en arrière. Ça ne semblait ni grandir ni se rapprocher. Le soleil atteignit la clé de voûte du ciel et parut s'y attarder bien trop longtemps. Roland s'imagina retourner dans le désert, quelque part entre la bicoque du dernier frontalier. Fruits musicaux, plus t'en manges, plus tu joues du pipeau, ou le relais, ou le gamin. Ton Isaac avait attendu sa venue. Ses genoux plièrent et se raidirent encore. Quand ses cheveux revinrent obstruer son champ de vision, cette fois il ne prit même plus la peine de les écarter. Il n'en avait plus la force. Il continua de fixer l'objet qui projetait maintenant une ombre étroite vers les hauteurs et continua de marcher. À présent, il avait fini par comprendre, fièvre ou pas, ce dont il s'agissait. C'était une porte. Moins d'un quart de mille l'en séparait quand ses genoux faiblirent de nouveau. Il ne put cette fois se redresser à temps et tomba. Sa main droite griffa le sable et les deux moignons s'indignèrent du contact avec cette substance abrasive qui arrachait leur chair à vif. Ils recommencèrent de saigner. Il poursuivit donc à quatre pattes, les oreilles résonnant du cycle répété de ruées, de rugissements et de replis de la mer occidentale. Il progressait sur les coudes et les genoux, creusant de profondes ornières au-dessus de la guirlande de varech marquant la laisse de haute mer. Il se dit qu'un vent fort devait toujours souffler. Sinon pourquoi aurait-il continué de trembler ainsi? Mais il ne percevait nul autre déplacement d'air que les bourrasques rauques, happées et rejetées par ses poumons. La porte se rapprocha encore. Enfin, vers 3 heures dans l'après-midi de cette longue journée de délire, tandis que son ombre commençait de s'étirer à sa gauche, il atteignit la porte. Il s'assit sur les talons et posa sur elle un regard là. Elle était haute d'une toise et semblait faite de bois de fer massif, bien qu'il n'y eût probablement aucun arbre de fer à moins de 200 lieues de là. La poignée paraissait tout en or et le métal précieux était travaillé d'un filigrane étrange que le pistolero déchiffra ainsi. C'était le faciès grimaçant d'un babouin. Pas de trou de serrure dans ce bouton de porte, ni au-dessus, ni au-dessous. Des gonds, en revanche,
mais qui ne s'articulait sur rien.
Où donnait du moins cette impression, pensa-t-il.
C'est là un mystère des plus admirables, mais quelle importance au fond. Tu es en train de mourir, et c'est ton propre mystère qui vient à toi, le seul qui compte pour tout être humain quand il approche de la fin. Pourtant, tout bien considéré, ce mystère-là semblait avoir de l'importance. Cette porte, qui se dressait là où nulle porte n'aurait dû se trouver, banalement posée sur ce sable grisâtre à quelques 10 pas des marées les plus hautes, apparemment aussi éternelle que la mer elle-même, projetant vers l'est l'ombre oblique de son épaisseur alors que déclinait le soleil. Écrit en lettres noires aux 2/3 du panneau, dans les caractères mêmes du haut-parler, 2 mots. Le prisonnier. Un démon l'a envahi. Le nom de ce démon est Héroïne. Le pistolero perçut un bourdonnement bas et l'imputa tout d'abord au vent ou à la fièvre qui le rongeait. Mais il lui fallut se rendre à l'évidence. Il s'agissait d'un bruit de moteur et qui provenait de derrière la porte. Ouvre-la donc, elle n'est pas fermée. Tu sais qu'elle n'est pas fermée. Mais au lieu de l'ouvrir, il se releva sans élégance et la contourna par en haut, allant voir de l'autre côté. Il n'y avait pas d'autre côté. Rien que la plage grise à l'infini, rien que les vagues, les coquillages, la laisse de haute mer et ses propres traces, la traînée de ses genoux, les trous de ses coudes. Ses yeux retournèrent sur l'emplacement de la porte absente et s'écarquillèrent un peu. Si la porte avait disparu, son ombre demeurait. Il amorça un geste de la main droite. Ah, oh, comme elle était lente à comprendre quel serait désormais le rôle amputé qui lui restait. La laissa retomber, leva la main gauche, et à tâtons chercha une résistance. Même si je sens quelque chose, ce sera comme frapper contre rien, pensa le pistolero. Voilà qui ferait une expérience intéressante avant de mourir. Sa main continua de rencontrer de l'air longtemps après avoir dépassé le point où, même invisible, la porte aurait dû se dresser. Rien sur quoi frapper. Et le bruit de moteur, si c'était bien de ça qu'il s'agissait, s'était évanoui. Il ne restait que le vent, les vagues, et dans son crâne, le bourdonnement de la fièvre. Il se retourna lentement vers l'autre face de ce qui n'existait pas, supputant déjà qu'il avait dû être victime d'une hallucination ou bien de... Il s'immobilisa. L'instant d'avant, il avait eu vers l'ouest la vue ininterrompue d'un rouleau gris, et voilà que s'interposait l'épaisseur de la porte. Il découvrait de biais le coffre de la serrure avec le pêne qui en saillait comme une petite langue de métal buté. Déplaçant la tête de quelques centimètres vers le nord, Grant vit la porte disparaître. Mais elle fut de nouveau là quand il reprit sa position initiale. Elle n'apparut pas, elle était simplement là. Il retourna devant la porte et la contempla, chancelant. La contourner par la mer, il était pratiquement sûr que cela reviendrait au même, à ceci près qu'il tomberait cette fois. Je me demande s'il est possible de la franchir par le côté du néant.
Il y avait toutes sortes de questions à se poser, mais la vérité, elle, était toute simple. Cette porte solitaire, sur une bande de plage apparemment infinie, dictait seulement 2 marches à suivre, l'ouvrir ou la laisser fermer. Le pistolero prit conscience, non sans humour, qu'il ne mourrait peut-être pas aussi vite qu'il l'avait pensé. Sinon, il n'aurait sans doute pas été à ce point perméable à la terreur. Il tendit sa main gauche et la referma sur le bouton. Ni le froid mortel du métal, ni la chaleur féroce et ponctuelle des signes qui étaient gravés ne le surprirent. Il tourna le bouton. La porte s'ouvrit vers lui quand il tira.
Ça ne ressemblait à rien de ce qu'il attendait. Il regarda, figé, proféra le premier cri de terreur de sa vie adulte et referma violemment la porte. Il n'y avait rien sur quoi la claquer, mais il la claqua quand même, provoquant le bruyant envol des mouettes qui s'étaient perchées tout autour sur les rochers pour l'observer. 5. Ce qu'il avait vu, c'était la terre, mais de très haut, d'une hauteur inconcevable, à des kilomètres de hauteur, semblait-il. Il avait vu l'ombre de nuages passer sur le globe, le traverser comme en un rêve. Il avait vu ce qu'aurait vu un aigle volant 3 fois plus haut que n'importe quel aigle. Franchir une telle porte signifierait tomber en hurlant pendant d'interminables minutes pour finir fiché dans le sol.
« Non, tu n'as pas vu que ça !»
Il y réfléchit alors qu'il s'asseyait, ébahi, sur le sable, face à la porte close, sa main blessée au creux des cuisses. L'infection commençait à préciser ses nervures au-dessus du coude. Il paraissait évident qu'elle ne tarderait pas à atteindre le cœur. C'était la voix de Cort qui avait résonné dans sa tête.
« Écoutez-moi, bande d'asticots ! Écoutez-moi si vous tenez à la vie, car elle peut très bien en dépendre un de ces jours. Vous ne voyez jamais tout ce que vous voyez. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a confié à moi, pour que je vous montre ce que vous ne voyez pas dans ce que vous voyez. Ce qui vous échappe quand vous avez la trouille, quand vous vous battez, quand vous courez, quand vous baisez. Personne ne voit tout ce qu'il voit. Mais avant d'être des pistoleros, enfin ceux d'entre vous qui ne partiront pas vers l'ouest, vous aurez appris à voir plus de choses dans un seul coup d'œil que bien des gens dans leur existence entière. Et une partie de ce que vous n'aurez pas vu dans ce premier regard, vous le verrez plus tard par l'œil de la mémoire. Enfin, si vous vivez assez longtemps pour vous souvenir, car entre voir et ne pas voir, il peut très bien avoir la même différence qu'entre vivre et mourir.
Il avait vu la planète de cette hauteur phénoménale, avec quelque chose de plus déviant, de plus vertigineux que sa vision de la croissance du monde, juste avant la fin de son temps avec l'homme en noir, car ce qu'il avait vu par cette porte n'avait rien d'une vision. Et le peu d'attention qui lui était resté avait enregistré que la terre entrevue n'était ni désert ni mer, mais quelque endroit verdoyant d'une inconcevable exubérance avec des alvéoles miroitantes, peut-être un marécage. Mais
le peu d'attention qui t'est resté, singea férocement la voix de Cort. Tu as vu autre chose.
Exact. Il avait vu du blanc. Des bords blancs.
Bravo, Roland !
Clama Cort en lui, et il eut l'impression qu'une main calleuse s'abattait sur son épaule. Il tressaillit. C'était par une fenêtre qu'il avait regardé. Il se releva au prix d'un effort intense et tendit la main, sentit le gel contre sa paume et les brûlantes lignes de chaleur ténues. Il rouvrit la porte. 6. Le spectacle auquel il s'était attendu, celui de la terre vue d'une hauteur terrifiante, incroyable, avait disparu. Il regardait des mots qu'il ne comprenait pas, ou plutôt qu'il comprenait presque. C'était comme si les grandes lettres avaient été déformées. Au-dessus des mots, l'image d'un véhicule sans attelage, une de ces automobiles qui étaient censées peupler le monde avant que les temps changent. Il pensa soudain au récit de Jake, quand au relais il l'avait hypnotisé. Cette voiture, mue par un moteur et près de laquelle riait une femme portant une étole de fourrure, était peut-être ce qui avait écrasé l'enfant dans cet étrange autre monde. Cet étrange autre monde que je vois, se dit le pistolero. Soudain, la vue, non, ne se modifia pas, mais se déplaça. Le pistolero oscilla, saisi de vertige,
vaguement nauséeux.
Images et mots descendirent, et il découvrit une allée avec par-delà deux files de sièges, quelques-uns vides, mais la plupart occupés par des hommes vêtus d'étranges manières. Il présuma qu'il s'agissait d'un costume, tout en n'en ayant pourtant jamais vu de similaire. Et ce qu'ils avaient autour du cou faisait probablement fonction de foulard ou de cravate, bien que, là encore, ça n'y ressemble à guère. Pour autant qu'il pût en juger, aucun n'était armé. Ni dague, ni épée, ni revolver, bien sûr. À quelle espèce de brebis naïve s'apparentaient ces gens? Certains semblaient plongés dans la lecture de grandes feuilles couvertes de caractères minuscules, des mots entrecoupés d'images. D'autres écrivaient sur des feuilles plus petites, avec des plumes comme Roland n'en avait jamais vu. Mais les plumes l'intéressaient peu. C'était le papier qui le fascinait. Il vivait dans un monde où l'or et le papier avaient exactement la même valeur. Jamais il ne lui avait été donné de voir tant de papier d'un seul coup. Et voilà que l'un de ces types arrachait une feuille du bloc jaune posé sur ses genoux et qu'il la froissait après s'être contenté de griffonner quelques lignes d'un côté et rien, absolument rien, de l'autre. Le pistolero n'était pas assez malade pour ne pas éprouver un sentiment d'horreur outragée devant ce gaspillage contre nature. Derrière les deux séries de sièges, il y avait une paroi blanche incurvée percée de fenêtres. Toute une rangée. Quelques-unes occultées par une sorte de volet, mais il voyait le ciel bleu à travers les autres. Voilà qu'une femme remontait l'allée, s'approchait de la porte. Elle portait une sorte d'uniforme, mais, encore une fois, d'un genre inconnu. Il était d'un rouge éclatant, et le bas était un pantalon. Roland voyait la jonction entre les deux jambes. C'était une chose qu'il n'avait jamais vue chez une femme habillée. Elle approcha tant qu'il la crut sur le point de franchir la porte et recula d'un pas, manquant tomber. Elle le regardait avec la sollicitude étudiée de quelqu'un qui accomplit un service, tout en restant son propre maître. Mais ce n'était pas cela qui captiva le pistolero. Ce fut la fixité de l'expression qui le fascina. Ce n'était pas ce qu'on pouvait attendre d'une femme, de n'importe qui en l'occurrence, confrontée à un personnage titubant, sale, exténué, avec des revolvers suspendus à ses hanches, un chiffon trempé de sang autour de la main droite, des jeans donnant l'impression d'être passés sur une sorte de scie circulaire. « Souhaitez-vous ?» demanda la femme en rouge. Elle ajouta autre chose dont l'exacte signification lui échappa. « À boire ou à manger, supposa-t-il. » Ce vêtement rouge, ce n'était pas du coton. De la soie, oui. Ça ressemblait à de la soie. Mais comment ? Jean, répondit une voix, mot que le pistolero comprit. Et il comprit soudain beaucoup plus. Il ne s'agissait pas d'une porte. C'était des yeux. Si dément que cela parut, son regard embrassait en partie l'intérieur d'un véhicule volant dans le ciel. Et ce regard passait par les yeux d'un autre. De qui ? Mais il connaissait la réponse. Il voyait par les yeux du prisonnier.